Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Calade si vous nous rejoignez. Peut-être que vous sortez du boulot, que c'est l'heure de la pause déjeuner. Eh bien, bon appétit dans ce cas. Nous sommes aujourd'hui le mardi 22 novembre 2022. Une journée entre nuages et éclaircies avec des températures autour de 10 degrés dans le Beaujolais et le Val-de-Saône. Au programme de notre émission, on va retrouver une rubrique du coach sur le bateau de Thésée. Vous pouvez déjà sortir vos cours de philo pour réviser. On a rendez-vous avec notre libraire Bertrand Lamy en fin d'heure, mais avant tout ça, on va retourner à Charnay. Au début du mois, je recevais les membres du collectif Charnay Raisonné, inquiets et opposés surtout à l'installation d'une antenne 5G dans leur commune. Ils s'y opposent pour des questions esthétiques d'abord. Un pylône de 25 mètres de haut dans un village de pierre dorée, ça ne leur plaît pas, et ils ajoutent à ça des réserves sur les questions de santé et une critique également sur la consommation énergétique d'une telle antenne et l'utilité de la 5G en général. La mairie de Charnay, en revanche, semble plutôt favorable au projet. On va recevoir aujourd'hui Monsieur Laurent Dubuis, maire de Charnay, pour qu'il puisse nous donner le point de vue de la municipalité dans cette histoire d'antenne 5G. On commence d'abord bien sûr notre émission en musique. On écoute Jack Bug, Trouble Town. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h14. Merci d'être avec nous.
Where the only thing that's pretty is the thought of getting out. There's a tower block overhead. All you got your benefits and you're barely scraping by. In this troubled town, troubles are found. In this
Ensemble sur Calade.
Elle est tout de suite avec nous en studio. On retrouve Laurent Dubuis. Vous êtes le maire de Charnay. Bonjour.
Bonjour.
Et on va parler aujourd'hui d'une antenne 5G. On en avait parlé début novembre avec une association qui était venue nous voir, qui avait demandé de prendre la parole. Charnay Raisonné, il s'oppose à l'installation d'une antenne 5G au village. On voulait vous donner le droit de réponse. Vous avez demandé à pouvoir répondre. Donc aujourd'hui, on vous donne la parole à votre tour pour parler de cette antenne. Est-ce qu'on peut reprendre l'histoire depuis le début, rappeler un petit peu la situation ?
Oui, bien sûr. Avant juste de repartir du point zéro, je voudrais déjà vous remercier de me donner la parole. J'ai sollicité ce droit de réponse après avoir entendu l'interview des membres du collectif qui était passé sur votre antenne. Je vous remercie de me donner la parole. Je souhaiterais, si c'est possible, apporter quelques précisions. Je souhaiterais corriger certains propos qui ont été tenus, qui ne reflètent pas la vérité du dossier. Et puis, je voudrais surtout rétablir certaines vérités. On m'a prêté des propos que je n'ai pas tenus. On m'a accusé dans cette interview d'avoir répondu à une question que j'étais contre la démocratie participative. Je pense que depuis 15 ans que je suis maire dans cette commune, j'ai montré le contraire. J'ai toujours essayé de privilégier l'intérêt général, de faire participer le plus d'interlocuteurs possible. Et depuis 15 mois, sur ce dossier précis d'installation d'une antenne téléphonie sur la commune, je pense que j'ai également été ouvert, malgré tout ce que l'on peut bien me reprocher, mais qui n'est pas toujours réel.
D'accord.
Donc voilà, ceci étant dit, après on peut repartir effectivement 15 mois en arrière.
Ça a commencé comment, ouais, cette
histoire d'antenne ? On a appris un jour qu'un opérateur avait rencontré le propriétaire d'une parcelle privée qui se trouve à côté du cimetière au sud de la commune, ouais, pour installer cette antenne de relais téléphonie. Je tiens en préambule à dire également qu'il n'y a aucune antenne actuellement de téléphonie d'aucun opérateur sur notre commune.
Il n'y a pas d'antenne 4G pour l'instant ?
Aucune antenne téléphonique, de D'accord. quelque opérateur que ce soit. Donc je suis clair, c'est facilement vérifiable. Donc une fois qu'on a eu appris qu'il voulait installer une antenne sur une parcelle privée, on a pris contact avec l'opérateur, en l'occurrence Free, qui nous a confirmé très simplement qu'effectivement, pour eux, il était préférable de s'installer sur des domaines publics, que c'était beaucoup moins compliqué dans le cadre actuel. Donc on a regardé s'il y avait possibilité de trouver un terrain. On a trouvé un terrain qui se trouvait juste à côté, à 30 mètres près du premier terrain qui avait été envisagé. Et puis on a ouvert la discussion comme ça. Voilà comment les choses se sont présentées.
Ok. Et ça fait 15 mois, est-ce que c'est... J'y connais rien. Est-ce que c'est normal que ça prenne 15 mois ? Est-ce que...
Oui, puis on est parti pour que ça dure encore plus longtemps, puisque donc, après avoir rencontré l'opérateur, qu'il nous ait confirmé qu'il préférait s'installer sur un domaine public qu'un domaine privé, on était au mois de septembre 2021... On a travaillé, je me suis renseigné pour savoir quels étaient les tenants et les aboutissants en accueillant un équipement de cette sorte sur sa commune. Et puis donc, on a trouvé un terrain qui pouvait faire l'affaire. Je rappelle également que les opérateurs de téléphonie, comme Free en l'occurrence, proposent des conventions d'occupation de domaine public. On signe une convention d'occupation de domaine public. Je vais être transparent. Le montant de la convention qui nous est proposée par Free est de 7000 euros de redevance, donc versé à la collectivité 7000 euros annuels sur une période de 12 ans. Donc, quitte à avoir une antenne, le conseil municipal, à l'unanimité, a estimé qu'il valait mieux avoir les 7000 euros dans la poche de la commune, dans le budget de la commune, et pouvoir en faire bénéficier la totalité des habitants de la commune plutôt que ça revienne chez un privé, tout simplement. Quoi, hein.
Très bien. Est-ce que là, il y a une association qui est venue nous voir totalement opposée à cette antenne ? J'imagine qu'au conseil municipal, ça a pas, il y a eu cet aspect financier que vous évoquez, mais j'imagine que ça n'a pas tout de suite été forcément oui pour tout le monde.
Alors, avant de prendre quelques décisions que ce soit, on s'est renseigné, on s'est rapproché de différents partenaires, on a questionné ce que l'on appelle les personnes publiques associées, en l'occurrence les services de l'État représentés par la DDT, le préfet. J'ai rencontré le préfet, j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard. On a questionné également les bâtiments de France, puisque nous sommes dans, il y a une partie du village qui se trouve concernée par un secteur protégé au titre des bâtiments de France. On a consulté également la direction générale de l'aviation civile, puisque nous sommes à proximité d'un aérodrome. Donc on voulait s'assurer que tout était en ordre et qu'il n'y aurait pas de problème particulier à l'installation d'un tel équipement.
Ouais.
Et ensuite, on a voté au mois de novembre la mise à disposition d'un terrain public à un opérateur privé, en l'occurrence Free. Ce vote s'est fait à l'unanimité parce que tout le monde partait du principe qu'effectivement il valait peut-être mieux avoir une antenne, parce qu'on avait eu confirmation par tous les services que je viens de citer que l'on ne pouvait pas s'opposer à l'installation d'une telle antenne. Le sous-préfet de Villefranche que j'ai rencontré me l'a dit textuellement: monsieur le maire, vous ne pouvez pas vous opposer à l'implantation de tel équipement. Donc on a voté une première délibération en novembre 2021, donc visant à la mise à disposition d'un terrain public. Cela n'augurait rien du tout de l'instruction du dossier. On a reçu ensuite une déclaration préalable que l'on a instruit et donc on a avancé dans le temps. Je voudrais juste remettre aussi deux petits points à l'ordre du jour. C'est l'installation de ces antennes, les maires n'ont que très peu de pouvoir pour dire oui ou pour dire non.
Pourquoi ?
Je voudrais rappeler que ça s'inscrit, c'est une volonté du président de la République, des services de l'État. Les services de l'État ont mis en place un plan France très haut débit. Et ce plan a pour objectif de supprimer la totalité des zones blanches en France. Ouais. Donc les services de l'État ont fait en sorte que les maires aient de moins en moins la main pour instruire ce genre de dossier. Je vous donne juste un exemple. Il y a quelques années en arrière, pour installer une antenne comme cela, il y avait une plateforme béton, il fallait que l'opérateur dépose un permis de construire. Il y a un arrêté ministériel qui est paru, on n'a plus besoin de permis de construire, il s'agit simplement d'une simple déclaration préalable de travaux qui est instruite en un mois.
Ouais.
Je vais peut-être aussi anticiper, si vous le voulez bien, une question que vous allez me poser, parce que tout le monde me la pose. Monsieur le maire, est-ce que vous êtes pour ou contre cette antenne ?
Ouais.
Je vais vous répondre très, très simplement, c'est ce que je dis à tout le monde. Je suis ni pour, elle va être installée à 300 mètres de chez moi, ouais. Je suis ni contre, je suis maire. Et à ce titre, je dois instruire la déclaration de travaux qui nous a été déposée par l'opérateur. Si on regarde la jurisprudence en France et la jurisprudence plus près de chez nous, les mairies ne peuvent pas s'opposer à l'implantation de ces antennes. Je prends trois exemples précis. La commune de Civrieux-d'Azergues s'est opposée, elle a été condamnée par le tribunal administratif. L'antenne a été installée sur un terrain privé et la commune a été pénalisée, elle a dû payer des pénalités, ouais, à l'opérateur.
C'est ce que j'allais vous demander, si vous vous opposiez, si la municipalité s'opposait à l'installation de cette antenne, elle finirait par s'installer d'une manière ou d'une autre et en plus ça pénaliserait la commune.
Alors je vous donne trois cas où la commune s'est opposée à l'instruction, enfin à refuser l'installation de cette antenne. Civrieux, ils ont été condamnés. Porte des Pierres Dorées, ça a été houleux, il y a un collectif qui a été monté. Le préfet est venu en réunion publique et a dit que l'antenne s'installerait, et l'antenne, toutes les déclarations de travaux ont également été signées. Et Glaizé dernièrement, on est sur la commune de Glaizé ici, où on est juste à côté, le maire a également été condamné en avril 2022 par le tribunal administratif, il s'était opposé à la déclaration préalable, il a été condamné, l'antenne va être installée. Ouais. Ce sont des cas facilement vérifiables. Donc en fait, quand on reçoit ce genre de déclaration de travaux, on a deux solutions. On la refuse, on se fait bien voir par sa population, on la refuse, on se fait retoquer par le tribunal administratif, et l'antenne s'installe quand même. Ça a coûté de l'argent, ça a coûté des frais d'avocat à la commune. Quoi qu'il arrive, l'opérateur attaque la commune si la commune refuse la déclaration préalable. Ouais. Et autre cas de figure, moi je m'inscris dans un cadre légal, je m'appuie sur des faits juridiques, on accepte la déclaration de travaux, et dans ce cas-là, on est attaqué par un collectif qui aujourd'hui, sauf erreur de ma part, n'a pas de valeur juridique. Ce n'est pas une association, c'est un collectif d'habitants. Et à ce que je sache, les collectifs d'habitants ne sont pas entendus par le juge du tribunal administratif. En l'occurrence, il y a un recours gracieux qui a été déposé, qui nous demande de façon gracieuse de retirer notre acte administratif. Il me paraîtrait aberrant de retirer un tel acte, parce qu'à ce moment-là, je pourrais me faire attaquer par le préfet, par le contrôle de légalité, qui me demanderait pourquoi j'ai retiré un acte qui est valable juridiquement. Donc voilà un petit peu les points précis, quoi, hein, ouais, d'un point de vue juridique.
Moi, ce que je comprends de la situation, c'est que il faut pas s'opposer à la... C'est pas la municipalité qui veut installer cette antenne, c'est un opérateur qui veut l'installer, que ça fait partie d'un plan national, et qu'aujourd'hui, votre pouvoir pour vous opposer, il est pas... Même en tant que municipalité, maire, vous pouvez pas y faire grand-chose.
Mais
c'est pas contre la municipalité, ce serait plutôt contre l'opérateur qu'il faudrait s'opposer.
Oui, sauf que c'est la mairie qui a signé la déclaration de préalable, donc le collectif charnaisien ne peut pas attaquer l'opérateur en direct, il attaque celui qui a autorisé cette installation.
D'accord. Est-ce que vous savez, dans le futur, comment ça risque de se passer? Est-ce que vous avez une idée des mois que ça va prendre?
Bah là, aujourd'hui, nous, on a signé donc la déclaration préalable de travaux le 3 août. Mmh. L'opérateur Free a affiché sur le terrain l'autorisation de la commune le 29. Donc, dans ce cas de figure, les tiers, ce qu'on appelle les tiers, n'importe quel habitant peut déposer un recours. Ouais. Ils l'ont fait dans les délais, puisque le délai courait 2 mois à partir du 29 août jusqu'au 29 octobre. On a reçu ce recours gracieux le 25 octobre en mairie. On a 60 jours pour l'instruire. On va analyser le recours qui nous a été déposé par voie d'avocat. Et on rendra réponse au collectif qui nous a sollicité. Sans trahir de secret, on a prévu d'organiser une réunion privée du conseil municipal parce que je veux voir mes élus, je veux qu'ils me disent réellement ce qu'eux en pensent. Mmh. La première délibération avait été prise à l'unanimité, mais je redis tout le temps, nous en tant que collectivité, on s'appuie sur des règles de droit, ouais. Sur des arguments juridiques. Pas sur des faits subjectifs. Aujourd'hui, les membres de ce collectif nous disent « Ah, c'est pas beau ». Moi, je ne suis pas qualifié pour dire si c'est beau ou c'est pas beau. Mmh. On a pris attache avec les Bâtiments de France. Les Bâtiments de France nous disent « Oui, effectivement, c'est pas beau, mais ce n'est pas dans le périmètre des Bâtiments de France, donc nous ne sommes pas compétents pour répondre ». Les membres du collectif nous disent « Ouais, c'est dangereux pour les avions. L'antenne, si elle s'installe, elle fera 24 mètres de haut ». On a questionné la direction générale de l'aviation civile qui nous a dit qu'il n'y a aucun risque pour les avions. Un avion, quand il passe au-dessus de Charnay, s'il tapait une antenne à 24 mètres, il pourrait taper le clocher de l'église aussi. Donc il n'y a vraiment aucun risque non plus. Et après, il y a l'aspect sanitaire. Je ne rentrerai même pas dans le détail parce que là, il y a un arrêté du Conseil d'État, la plus haute juridiction de droit en France, qui dit qu'aucun maire de France ne peut s'opposer au titre de son pouvoir de police, ni en se fondant sur le principe de précaution à l'implantation d'une antenne pour des raisons sanitaires. Mmh. Moi, je suis les arguments juridiques qui me sont donnés par les services compétents en la matière. Je ne m'appuie pas sur des arguments... parfois limites, qui ne sont pas recevables d'un point de vue juridique. Quoi.
Ouais, c'est plutôt sur le coup de l'émotion ou des choses comme ça. Mais
je vous l'ai dit tout à l'heure, l'antenne, elle va être à peu près à vol d'oiseau, à 300 mètres de chez moi. Je considère effectivement que ça ne sera pas forcément très joli. Mm. Mais que l'on me donne des arguments juridiques pour m'opposer à cette installation, j'ai posé la question plein de fois aux membres du collectif, je le dis en souriant, mais au bout d'un moment, ça fait plus rire personne. Quand je leur demande de me donner un argument juridique, la réponse que l'on me donne, c'est de me dire « bah désobéissance civile ». Mais ce n'est pas un argument juridique, ça. Un maire ne peut pas entendre des arguments de ce type, ce n'est pas possible.
Mmh. Il y a, pour revenir sur ce qu'avait dit cette association, enfin ce collectif, quand ils étaient venus nous voir en studio, ils s'étaient plein d'une opacité de l'information. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Je répondrai effectivement au courrier que leur avocat nous a envoyé. Leur avocat confirme que la communication de la commune a été satisfaisante, selon ses termes. Je peux reprendre, je ne veux pas vous refaire la chronologie de tout ce que l'on a fait. On a organisé une rencontre privée avec l'opérateur Free, au cours de laquelle il y avait une quarantaine de personnes. On a organisé une réunion publique à la demande de l'association, où il a été présenté le dossier en présence de l'opérateur Free. On a mis une salle gratuitement à disposition du collectif qui a organisé une rencontre avec les membres de la CARA, la coordination anti-antenne de la région Rhône-Alpes. Mmh. Je pense qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour essayer de faciliter la communication. On n'a pas fait de porte-à-porte comme eux sont en train de le faire, mais néanmoins, quand on a pris une délibération, elle figurait dans les comptes rendus de conseils municipaux. Tous les conseils municipaux sont publics et tous les éléments, et j'en finirai là, tous les éléments du dossier sont sur notre site, sont incrémentés au fur et à mesure sur le site de la commune. Et on a même une application Panneau Pocket où les gens peuvent recevoir de l'information sur leur téléphone, où on a également fait figurer ces dossiers. Donc, quand on me reproche un manque de transparence, je saurai y répondre en temps et en heure par écrit lorsque l'on rendra réponse à ce recours.
Quoi. Effectivement, moi j'étais étonné parce que j'avais préparé toutes mes questions et l'interview en allant sur votre site internet et j'avais trouvé toutes les infos sur...
Chronologiquement, il y a tout normalement.
Effectivement. Merci beaucoup d'être venu prendre la parole et d'avoir rappelé ce qui se passe à Charnay et expliqué un petit peu en détail l'autre... L'autre
merci de m'avoir donné la parole, parce qu'effectivement, je pense que dans ce genre de dossier conflictuel qui est en train de prendre des proportions que je n'avais peut-être pas imaginées au départ, je pense qu'il est toujours judicieux d'entendre les deux voix, les deux sons de cloche, comme on dit, qui forcément s'opposent.
C'est essentiel. Merci beaucoup encore une fois, à très bientôt.
Merci à vous.
Ensemble sur Calade.
Allez, on va faire une petite pause musicale. On écoute, tiens, Dandy avec Ready, A Message to You.
Stop your running about. It's time you straighten right out. Stop your running around. Message to you, Rudy. A message to you. You're growing older each day. You want to think of your future, or you might wind up in jail. Then you will suffer. A message to you, Rudy. A message to you.
De faire la même chose.
Et oui, on retrouve tout de suite le coach d'Ensemble sur Calade. Bonjour coach.
Salut gamin.
Bon, comment allez-vous?
Ben, ça va très bien.
Et de quoi allez-vous nous parler?
Alors Béjout, cette semaine, je vous propose de nous intéresser à un nouveau paradoxe qui nous fera voguer sur les flots de l'identité, le paradoxe du bateau de Thésée. J'adore faire des annonces comme ça.
C'est
un teaser d'un super film hollywoodien qui sort. Le gars Thésée, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est le gars qui a tué le Minotaure dans la mythologie grecque. Et c'était pas n'importe qui, hein, le gars Thésée. Et à son retour à Athènes, les gens étaient tellement contents que Thésée les ait débarrassés de cette abominable bête, hein, qui, je vous rappelle, pour assoiffer, pour répondre à sa soif de sang, il fallait lui envoyer de jeunes vierges. Donc, ça faisait un peu quand même mauvais genre, hein, de débarrasser des filles comme ça. Donc, ils ont vénéré Thésée et son bateau presque comme une relique. Mais pour maintenir ce magnifique bateau en bon état à travers les siècles, ils ont remplacé peu à peu les planches abîmées par des planches neuves. Et à un moment donné, alors tiens, juste, je fais une petite digression. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette locution, à quel point elle est amusante. À un moment donné, dès que c'est quelqu'un qui a l'accent du sud qui la prononce,
Mandonné.
Les gars, ils disent « à main donnée ».
Oui.
au lieu de dire à un moment donné. Moi, j'adore quand on dit à un moment donné, je lui dis c'est plus possible. Donc, à un moment donné, l'entretien du bateau a fait que toutes les parties du bateau ont été remplacées. Mmh. Il ne reste plus de bois du bateau original lorsqu'il a été construit. C'est simplement du bois de remplacement qui a permis, au fur et à mesure des années, des décennies et des siècles, de maintenir ce bateau en bon état. Mais alors, question, mon gamin Emiloud, ce bateau est-il encore le bateau de Thésée ou avons-nous affaire à un nouveau bateau qui ressemble au bateau de Thésée? Vous avez 3 heures, je ramasse les copies à la fin de l'émission.
Il n'est pas facile.
Il n'est pas facile de répondre à cette question, n'est-ce pas? Ouais. Alors, un philosophe, Thomas Hobbes, trouvant que la question n'était déjà pas assez difficile comme ça, il a poussé la réflexion un peu plus loin. Le gars, il a dit, imaginons que le bois qu'on a enlevé du bateau de Thésée, qui était un peu abîmé, a été conservé à chaque fois qu'on a changé une planche. Et qu'une fois qu'on a remplacé toutes les planches, on fabrique un nouveau bateau avec le bois de récup. Lequel des deux bateaux est le véritable bateau de Thésée? Celui d'origine, dont toutes les parties ont été progressivement remplacées, ou le deuxième bateau fabriqué à partir des matériaux du bateau d'origine? Ça complexifie encore le business.
Ouais.
Alors, ce paradoxe, on le retrouve sous une autre forme, avec l'histoire du couteau de Saint-Hubert. Le gars Hubert, il avait cassé la lame de son couteau, et donc il en a fait forger une nouvelle, et il l'a fait monter sur le manche de son couteau. Et puis, bien des années plus tard, le manche s'abîmant au fur et à mesure, il a dû être changé lui aussi. Et alors la question est, est-ce que le couteau de Saint-Hubert est encore le couteau de Saint-Hubert une fois que le manche et la lame sont changés? Eh bien, là aussi, c'est difficile de répondre comme ça parce que chaque réponse qu'on va faire, chaque inclinaison qu'on va prendre va avoir des conséquences. Si on répond concernant le bateau de Thésée que ce n'est plus le bateau de Thésée ou que le couteau de Saint-Hubert n'est plus le couteau de Saint-Hubert, une nouvelle question apparaît. À partir de quand le bateau de Thésée perd-il sa qualité d'être le bateau de Thésée? Est-ce dès la première réparation ou lorsque la dernière planche a été retirée? Alors, je vous rassure, mes louloutes, on ne va pas répondre à toutes ces questions tout de suite aujourd'hui dans cette émission. Parce que le paradoxe du bateau de Thésée, il n'a pas vraiment une réponse viable. Il y en a plusieurs. Le paradoxe, comme tous les paradoxes philosophiques, c'est une invitation à penser les choses, à faire un pas de côté pour se retrouver dans un piège de pensée et de réfléchir plus profondément. Et le paradoxe du bateau de Thésée nous fait réfléchir au concept d'identité. Il nous pose la question, qu'est-ce qui fait l'essence de l'identité, que ce soit l'identité d'un être humain, l'identité d'un animal, l'identité d'un arbre ou l'identité d'un objet? Si on prend du côté d'un être humain, est-ce qu'une personne qui a été greffée est la même personne qu'avant la greffe? Eh bien, la réponse, elle n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'on peut dire, oui, alors physiquement, cette personne est un peu différente puisqu'elle a un organe qui ne lui appartient pas au départ. Mais d'un point de vue psychique, je pense que l'expérience de la greffe va aussi modifier l'identité intrinsèque de la personne. Parce que cette expérience de nature un peu extraordinaire, elle va faire changer la perception que l'on a de la vie, de la mort. Et peut-être qu'une personne greffée se rend compte qu'à un moment, elle a encore une vie à vivre et que cette vie est précieuse. Et forcément, ça va avoir un impact dans son identité, dans sa relation avec les autres, dans sa relation au monde.
Ouais.
En réalité, les deux termes qui nous intéressent dans le cadre du bateau de Thésée et dans le cadre de l'identité, c'est de savoir est-ce que l'identité comme le bateau se renouvelle ou est-ce qu'il change? Parce que même si l'ensemble du bateau est renouvelé au niveau des matériaux, l'essence du bateau est toujours la même. La continuité de l'objet fait que l'on peut considérer que le bateau, dont plus aucune planche d'origine ne demeure, est celui qui a accompagné Thésée dans ses aventures. Donc si j'applique cette réflexion à l'identité, est-ce que je peux dire que mon identité est la même que celle que j'avais il y a 20 ans? Je pense que je peux répondre sans hésiter non. Je ne suis plus tout à fait la même personne que lorsque j'avais 20 ans. Pour autant, puis-je encore dire que j'ai la même identité? C'est ça qui est un peu compliqué à répondre, je trouve. Ce que ce paradoxe nous enseigne, c'est que malgré tous les changements, il y a une continuité dans le sens dans l'évolution de l'identité. Toutes les composantes de notre identité, les personnes avec qui nous sommes en relation, notre identité professionnelle, notre statut familial, notre identité même maintenant sur les réseaux sociaux, tout cela est toujours en mouvement. Et si on compare notre identité à deux dates éloignées, alors apparaît une impression de changement. Mais la notion de renouvellement ou d'évolution est bien plus dynamique. Elle montre que l'identité est en perpétuel mouvement. Ce paradoxe nous enseigne que rien n'est immobile et que rien n'est immuable. La stabilité et l'immobilité sont des fausses croyances, ce sont des illusions, et tout le monde peut changer et prendre de nouvelles directions. Même ceux et celles qui disent « moi je suis trop vieux, je suis trop vieille pour changer maintenant, pour me prendre comme je suis ». C'est une vieille excuse qui n'est pas valable. Alors ce qui doit attirer notre attention, mes louloutes, c'est de savoir si nous avons gardé le sens de ce que nous sommes lors de notre évolution ou si nous l'avons perdu en cours de route.
Oh, question combien philosophique, après tant de questions, on est débordé de questions, coach.
On est débordé de questions, mais des fois ça fait du bien de se poser des questions. Il ne faut pas se poser des questions non plus tout le temps, mais de bien se rendre compte, et notamment grâce au paradoxe, de bien se rendre compte que la vie, elle n'est pas binaire, elle n'est pas aussi simple, elle n'est pas manichéenne, diraient les gens intelligents, et que ça vaut le coup de s'intéresser à la complexité des choses.
Très bien, merci beaucoup, coach.
Salut mes louloutes.
À très bientôt, ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.
Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche, avec un dans les poches, je faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances, le sourire pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif. En triplet dessert, je reculais l'attente. Des gros ventres à remplir avec chansons badantes. Sur mon estrade en top que je prenais pour scène, je me sentais comme un coq, mais je flottais que sur la scène. Maquillé au pinceau, un solo pour mariage, avec costume Célio et l'odeur du fromage. Je posais comme il faut, les gens menaient pas large. Je me sentais parfois trop entre rêve et noyade. J'étais lui qu'on ne voit pas, qui se glisse entre les tables. J'entends du Rihanna avec un accent grave, qui sourit à chaque fois pour faire plaisir mesdames. Faudrait pas que messieurs se sentent dragués par moi. Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idoles, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, 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 beau, début, 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 beau, début, 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 beau, début, début, début. Je découvrais Paris,
je découvre l'étranger,
je viens d'où il fait gris,
où on laisse tout trop.
Les monuments crarés,
emportés comme jamais,
avec une envie,
installée sur ce pavé,
à chanter toute ma vie,
pas les chansons des autres,
j'en avais dans le vent,
pas du saumon le nôtre,
j'attendais patiemment,
monter sur le trône,
qu'on reprenne mes chansons,
quand je reprends vie en rose.
Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, 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 beau, début, 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 beau, début, 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 beau, début, début, début. Je devais quitter mes Nike et laisser sous le bateau. C'était pas assez classe pour l'image de ce show. Je n'avais qu'une hâte pour montrer ce que je vaux, montrer combien je fake et j'entre le manalo. Le soir je m'improvisais la vedette du bateau, en maquillant mes souhaits au parfum du ghetto. Tous les soirs je trinquais, rêve fou de mon ego. En attendant je réglais mes grands rêves au chapeau. Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, 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 beau, début, 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 beau, début, 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 beau, début, début, début. Quand
quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche. Avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances, le sourire pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif.
C'était Eddy de Préto sur Calade avec le titre Bateau mouche qu'on vient d'entendre.
Ensemble sur Calade.
L'humeur littéraire du libraire.
Et oui, pour nous parler de littérature aujourd'hui, eh ben on retrouve Bertrand Lamure. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bon, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ?
Eh ben on va... Alors en fait, j'avais envie d'aller un peu plus dans le détail autour... parce qu'on reçoit la librairie entre le prix Goncourt, Brigitte Giraud, cette semaine. Et je me suis dit, bon, on peut en parler, c'est très bien. Mais j'avais envie quand même de rentrer un peu dans le détail de son œuvre, parce que c'est vrai que beaucoup de gens nous interpellent. Soit ils la connaissaient pas, soit ils la connaissaient peu, et elle a quand même fait beaucoup de titres. Elle a 14 romans, nouvelles à son actif, et je trouve que c'était... Voilà, j'avais envie d'en parler.
Très
voilà,
bien.
Tout simplement.
Bon. Alors c'est quelqu'un...
Alors c'est qui ? Qui est Brigitte Giraud ? En dehors d'être une autrice très sympathique. Elle a commencé à écrire à la fin des années 90. Elle a été aussi éditrice, elle avait pas mal de choses, elle est donc lyonnaise. Ce qui est intéressant chez cette femme, c'est que son parcours de vie s'insère dans son parcours d'écriture et s'insère dans le collectif, dans une période de vie, dans une génération, dans des générations. Et c'est ce qui fait la force. On a eu la chance d'avoir au mois d'octobre un prix Nobel qui était français avec Annie Ernaux, qui elle aussi inscrit sa vie personnelle, son parcours dans une aventure littéraire et collective. Brigitte Giraud, il y a cette idée-là. Alors, en 1999, elle était en train de boucler quelque part, en juin 1999, elle bouclait un livre qui allait sortir à la rentrée, et comme d'habitude, un livre qui sort à la rentrée, on en a déjà parlé, ça se prépare longtemps à l'avance, et en mai-juin, on est déjà plutôt en train d'en parler aux libraires, à la presse, et de faire aussi toute la litanie des dédicaces pour en envoyer à des centaines de personnes. Et c'est là où elle a appris effectivement le décès de son mari, Claude, qui est donc le sujet du prix Goncourt de cette année, Vivre Vite. Et elle a véritablement, pour moi, pris un essor avec un livre qu'elle a sorti donc en 2000. Et ce livre, c'était « À présent ». Et évidemment, ce livre, c'était sur le moment où elle apprend le décès de son mari et les jours qui suivent. Tous ceux qui ont vécu un décès assez proche savent que les jours qui suivent sont des jours hors réalité. On est dans un monde second, on est un peu à part, on se pose la question comment ça se fait que le monde continue à avancer, que les gens sont dans leur routine, dans leur vie quotidienne, alors que nous, on est hors champ, hors vie. Et donc, évidemment, la force de son écriture à Brigitte Giraud, c'est ça, c'est de véritablement incarner dans un univers à la fois très, très du quotidien, très dans une réalité plate, et en même temps, la force de l'écriture, la force du roman, c'est d'en faire effectivement quelque chose qui résonne, quelque chose qui parle, quelque chose qui peut faire mal, quelque chose qui peut déranger, ou au contraire, qui peut totalement être subjuguant. Et dans ce roman, à présent, c'était ça, c'est ces quelques jours, ça fait évidemment résonance avec son Goncourt de cette année, dont on a déjà un petit peu évoqué le cas sur cette antenne. Alors, c'était pour passer un peu en revue, mais de manière assez large, quelques titres, moi, qui m'ont marqué. Que je trouve très intéressant. Il y a un titre qui s'appelle « Nous sommes des héros ». C'est un titre qui est très touchant parce que c'est l'histoire en fait d'une femme qui est accompagnée de son fils Livio et ils vivent au Portugal, mais c'est le Portugal de Salazar, donc c'est la dictature. Et un jour, le père ne revient pas. Il est ouvrier et il revient pas. Il a été arrêté et on comprend qu'il a été certainement torturé et mort en prison. Et donc cette femme et son fils partent. Il y a une possibilité, partent pour la France. Et c'est l'histoire de cette intégration dans la banlieue lyonnaise. C'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement, encore une fois, d'une simplicité des plus réelles. Hein, voilà, elle n'a pas de meubles, elle va chez Emmaüs. Voilà, on est au cœur d'une vie. Et en même temps, c'est une vie qui va résonner énormément parce que c'est la vie de beaucoup de migrants, c'est la vie de beaucoup d'immigrés. Donc évidemment, c'est une époque là où c'était les immigrés qui fuyaient le Portugal, qui fuyaient l'Espagne. Mais ça pourrait être évidemment aussi des immigrés du Maghreb et de partout dans le monde. Donc c'est cette force du particulier au collectif qui est extraordinaire. Et ce jeune garçon qu'on va voir grandir, qui est arrivé avec sa mère, qui est arrivé avec un chat qu'il a pris au Portugal et qui va être un petit peu sa bouée pour tenir les premières années, c'est extrêmement, extrêmement bien écrit, touchant et d'une vérité folle. Un loup pour l'homme. Alors Brigitte Giraud, elle est née en Algérie, Sidi Bel Abbès. Et évidemment, elle a très peu vécu dans ce pays, mais comme tout pied noir ou comme tout personne ayant pas forcément pied noir, parce qu'il y a aussi les familles de militaires qui sont là-bas, sont marquées, évidemment, surtout le cœur de l'enfance. Et un peu le loup pour l'homme, c'est l'histoire d'Antoine. Et Antoine, évidemment, est un appelé en 1960 pour l'Algérie. Simplement que lui, porter des armes, c'est pas possible. Et il va réussir à être infirmier. Et là, va se nouer toute une série de relations humaines. Très belle force aussi. On est dans ce cœur de cette Algérie où on a évidemment des années qui sont des années atroces. On n'arrive toujours pas à s'en remettre. Et là, on va avoir effectivement, pareil, ce lien, les liens qui peuvent arriver et qui peuvent se tisser avec ses patients, mais aussi avec sa femme qui vient. Sa femme qui va réussir à venir habiter, sa femme qui est enceinte, sa femme qui va accoucher. Et toute la difficulté de construire un couple dans ces conditions-là, où en fait les morts se succèdent toute la journée, les attentats aussi, et comment arriver à vivre avec tout ça. Pareil, un loup pour l'homme, très très beau. Alors un petit texte, que je sens bien que là je plombe tout le monde. Un petit texte qui m'a bien fait rire, je reconnais. En fait, ça s'appelle « Avec les garçons ». Et avec les garçons, c'est effectivement ici la découverte. Alors c'est presque de la poésie. C'est en fait 70 petits extraits ou de la découverte un peu des garçons quand on est une jeune fille. J'en lis juste un extrait, qui est l'extrait numéro 4. Je suis suspendu au geste du garçon, ses apparitions, sa démarche, son indifférence. Nos regards ne se sont pas encore croisés. Il s'agit d'un simple déplacement d'air, une possibilité. Le soir dans mon lit, alors que mon frère refuse d'éteindre sa lampe de chevet, je fixe un point dans le rideau et je récapitule. Et alors c'est vraiment, voilà, c'est comme ça, c'est vraiment cet univers qu'on a un peu tous vécu.
Adolescent.
Adolescente et tout l'univers qu'il a créé autour. Très joli. Ouais. Rapidement, parce que je suis en qu'à un moment donné, je vais être une année étrangère, très beau texte autour d'une jeune fille qui va être fille au père en Allemagne. D'accord. Toujours dans l'univers, évidemment, de la vie de Brigitte Giraud. Cette jeune fille part en Allemagne pour un an. Son petit frère vient de décéder. Donc, quelque part, c'est une libération. C'est la découverte d'autres choses. C'est aussi le lien qui va se détacher avec sa famille qui est dans d'autres tourments. Très beau texte. Comme je l'ai déjà dit, beaucoup de force. Je voulais parler, on en a déjà parlé il y a quelques temps, il y a peut-être un an ou deux, je ne sais plus, de son dernier qui vient de sortir en poche, qui est « Jour de courage ». Ouais. « Jour de courage », dont l'avait déjà reçu Brigitte pour celui-ci. Et très beau texte aussi, l'histoire de Livio. Livio, si vous avez suivi un tout petit peu, je viens de vous en parler dans Nous sommes des héros. Donc ce jeune portugais, globalement à la fin on comprend certaines choses et on le retrouve ici alors qu'il est en première. Tout se joue sur une heure. Une heure ou pendant une heure, il fait un exposé sur Hirschfeld. Alors là, évidemment, qui est Magnus Hirschfeld?
En fait,
Magnus Hirschfeld, c'est un grand scientifique, sociologue, sexologue de l'Allemagne des années 20. C'est lui qui va créer la première institution spécialisée dans les sexualités à Berlin. Mmh. Donc, au lieu, effectivement, de la recherche sur cette thématique-là. Évidemment, en 1933, on a un petit moustachu qui débarque, et là, il se dit ça, non, j'aime pas. Donc c'est le premier, en fait, autodafé de l'Allemagne nazie que de brûler la bibliothèque, qui était l'une des plus grandes bibliothèques du monde sur ce sujet-là, donc évidemment en 1933. Donc il fait cet exposé, Livio, et évidemment, ça sera l'occasion, sans le dire, mais tout en le disant, de faire un coming out.
D'accord.
Et alors je ne dis pas ce qui se passe après cette heure de cours, mais en tout cas pareil, hein, là on retrouve donc le Livio qu'on avait laissé, enfin on imagine que c'est lui dans Nous sommes des héros, et voilà, et c'est pareil, c'est très puissant, et surtout c'est d'une, il faut, si vous le lisiez, vous le lisez d'une traite, voilà, comme une heure de cours.
Comme si on était une heure en place, ouais, d'accord.
Voilà. Et c'est ce qui en fait la force de ce texte. Et donc tout ça pour aboutir à, évidemment, le Goncourt que j'ai déjà évoqué, donc je ne vais pas faire une redite, mais simplement tout ce que je viens de vous dire, en fait, cette idée de la vie intime, de la vie personnelle qui résonne au collectif, qui résonne aussi en vraiment un vrai talent littéraire, une vraie force littéraire, eh ben on le retrouve dans Vivre Vite, où effectivement, nous, on avait à présent les quelques jours de l'après-décès. Mmh. Et là, ben, c'est la litanie des si. Hein. Si on n'avait pas fait ci, si on n'avait pas fait ça, si j'avais pas poussé à acheter cette maison, etc., etc. Et comment, effectivement, une autrice, un auteur peut partir de soi, on trouve toujours que c'est très égocentrique, on trouve toujours que c'est, oui, bah alors la vie de ma grand-mère, de sa grand-mère, de son oncle, etc. Je reconnais que parfois on en a un petit peu marre, mais chut, j'ai rien dit. Et là, je trouve que c'est très intéressant. Comment une personne peut faire résonner du jeu au nous. Et je pense qu'il faut un grand talent d'écrivain. Souvent, on entend dire, oui, bon, enfin, elle raconte un peu sa vie. Oui, mais raconter sa vie, ça demande beaucoup de talent. Que pour ma part, je n'ai pas, évidemment. Bon, voilà.
Parfait. Merci beaucoup, Bertrand. À très bientôt.
Eh bien, à très bientôt. Bonne journée.
Bonne journée. Ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.